le rendez-vous avec Singapour en France, le festival. Venez découvrir la culture et les arts de Singapour à travers plus de 70 événements. Retrouvez toute la programmation sur singapour-lefestival.com.
Et tout de suite, le rendez-vous.
Voilà le message d'Erevan. La paix. Oui, toujours la paix. La paix pour la mémoire des victimes. La paix pour la sérénité des vivants. La paix pour le Moyen-Orient. Reconnaître, je dis bien reconnaître, le génocide arménien, commémorer son centenaire, c'est un acte de paix.
Et l'on passe à l'acte ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question du génocide arménien, de récits familiales, de mode, de performance et même de taxi. Avec Valérie Thoragnon qui publie L'étrangère, un roman familial pour un double portrait de femme ou comment libérer la parole sur le génocide arménien, Zoé Sfez.
Valérie Thoragnon place son entrée en littérature sous le patronage de sa grand-mère, Aravni, bouclée, courageuse, orgueilleuse, survivante, en somme une arménienne.
19h30, place nette à Xavier Delaporte pour sa chronique Place de la Toile. Ce soir, Xavier, au programme.
Que parler à une machine, c'est parfois mieux que parler à un homme.
C'est pour moi que vous dites ça. 19h35.
Une machine, vous.
Eh oui, c'est ça. Plateau mode avec Olivier Saillard, commissaire de deux expositions pour deux gestes de créateurs de mode. La mesure de Jeanne Lanvin, le scandale de Saint-Laurent. Zoé.
Des marguerites de Jeanne Lanvin au Falbala d'Yves Saint-Laurent, plongée dans l'âge d'or de la haute couture française.
Sans oublier la session live du jeudi, elle sera classique ce soir avec le Quatuor Ruggieri.
Même musique d'époque, puisque le Quatuor s'intéresse dans son nouvel album à un compositeur français injustement oublié, Georges Onslow, et nous jouerons un extrait du Quatuor opus 10, numéro 3.
Ils sont toujours injustement oubliés. Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture d'Adrien Azelli, jusqu'à la fin de la semaine, et on ouvre sur le son du jour.
Attention, Nova n'implosera qu'une seule fois.
Radio Nova. Ah oui, d'accord.
Radio Nova.
La radio, nous y sommes. Alors sortons-en un peu pour prendre l'air.
Nova.
Nova. Nova. Bonsoir Adrien Azelli.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour et c'est un très bon jingle.
Le son de la radio Nova, puisque Mathieu Pigas, patron de presse, un des co-actionnaires du Monde, pourrait racheter la station. C'est son groupe, les nouvelles éditions indépendantes, propriétaires des Inrecuptibles, qu'il annonce. Il souhaite ainsi, je cite, « renforcer les complémentarités entre les groupes Nova Presse et les Inrecuptibles ». Les propriétaires de Radio Nova souhaiteraient 15 à 20 millions d'euros. Mathieu Pigas est en négociation pour un achat sans co-actionnaire.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour. La 12e Biennale de la Havane ouvre ses portes demain alors que l'artiste-performeuse Tania Bruguera est toujours retenue par le gouvernement à Cuba pour avoir réalisé en décembre dernier une performance non autorisée sur la place de la Révolution. La Biennale pourrait être l'occasion d'attirer l'attention sur sa situation.
Il y a un mois, Zoé Sfez, vous parlez de la mobilisation internationale pour informer sur le sort de Tania Bruguera. Depuis, des leviers diplomatiques ont été levés. François Hollande lui-même a été alerté avant son voyage de la semaine dernière à Cuba. Mais on ne sait pas si le chef de l'État a eu le temps de discuter du sort de Tania Bruguera avec Fidel ou Raoul Castro. Si même François Hollande a eu le dossier entre les mains, c'est que Tania Bruguera est chef d'atelier à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris depuis 2008. Chaque année, elle s'occupe d'une quinzaine d'étudiants, parmi eux Enzo Mianes, qui vient d'avoir son diplôme. Il est en contact avec elle par mail et la situation ne fait qu'empirer.
Elle nous a dit qu'elle était retenue, qu'elle était surveillée par le gouvernement, qu'elle était en attente de jugement et aussi que le gouvernement essayait de lui mettre des affaires un peu crapuleuse sur le dos, en fait. C'était des affaires de drogue ou même de meurtre. Enfin, ça va très très loin. Ils font en sorte de repousser tout le temps le procès, donc de la faire encore attendre, de la faire craquer. Je crois qu'elle a été interrogée environ 17 fois. Et elle ne craque pas, quoi.
Le directeur de l'École nationale des beaux-arts de Paris, Nicolas Bourriaud, suit évidemment la situation de très près.
Il s'est rendu aux trois dernières éditions de la Biennale de la Havane où Tania Bruguera avait déjà réalisé sa performance. Elle donne librement la parole aux citoyens qui ont une minute pour s'exprimer au micro.
Cette performance a eu lieu d'ores et déjà à Cuba, en plein centre de la Havane, dans le lieu le plus officiel qui soit, c'est-à-dire le centre Wilfredo Lam, et qu'elle n'a absolument pas été inquiétée. Et donc le paradoxe, c'est effectivement qu'en reproduisant une deuxième fois cette performance, il y a une crispation du régime, sans aucun doute. Le ton, en fait, de d'appuyer là où ça fait mal. Et je crois que la plupart des actions menées par Tania, des interventions qu'elle a réalisées, révèlent de manière assez puissante genre les ambiguïtés du pouvoir et le hiatus qu'il peut y avoir entre les discours officiels et la réalité. C'est ça, effectivement, qui fait qu'elle est aujourd'hui retenue à Cuba.
Cuba où s'ouvre donc demain la 12e Biennale d'art de la Havane avec des invités du monde entier.
Les organisateurs de la Biennale annoncent un événement non pas pour les collectionneurs ou les galeristes, mais pour la ville. L'art va sortir des galeries et s'épanouir dans les rues. Un discours qui révèle le paradoxe actuel à Cuba. Jeannette Abel est politologue à Paris 3.
Ça dit d'abord que la situation actuelle est une situation contradictoire et que de la part du gouvernement cubain, il y a peut-être la crainte d'une vulnérabilité à cause de ce processus de normalisation avec les États-Unis. Il y a une fragilité, mais en même temps, l'affaire Tania Bruguera est certainement quand même en partie masquée par cet événement culturel et une direction qui avance parfois en reculant et surtout qui tient à réaffirmer son autorité tout en finalement quand même libéralisant peu à peu, lentement, en partie la situation, l'économie du pays et beaucoup plus lentement, beaucoup plus graduellement, c'est vrai, les éléments, la situation politique.
Dans ce contexte, pas sûr que la Biennale puisse attirer l'attention sur Tania Bruguera. Elle réalise en ce moment une performance en parallèle de la Biennale, où elle n'est évidemment pas programmée. Elle lit pendant 100 heures un texte de la philosophe Hannah Arendt, « Les origines du totalitarisme ».
Peut-être une réaction de la part de nos invités, Valérie Thorragnan.
C'est absolument horrible, vous savez. Et puis, ce qui est inquiétant, c'est qu'on a l'impression qu'on va commencer à produire des pièces et des accusations contre elle dans le pur système totalitaire. Voilà, ça me rappelle Parajanov à l'époque où il voulait filmer et qu'il était accusé d'être un homosexuel et un trafiquant d'icônes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ces processus totalitaires, c'est quand même des cultures qui ont du mal à se résorber. Il y a des signes positifs et il y a à chaque fois des espèces de rappels en arrière qui sont inquiétants.
On a essayé toute la journée de la joindre, on va essayer ces jours-ci pour prendre des nouvelles de plein pied. Tout de suite, les brèves.
L'Espagne impose une nouvelle taxe de 21 centimes sur les billets des concerts. Hier, manifestation de nombreux stars de la chanson qui se sont scotchés la bouche sur les réseaux sociaux en réaction à cette mesure qui menacerait toute l'industrie du disque.
La ville de Palmyre aux mains de l'État islamique.
On l'a entendu tout à l'heure, une nouvelle qui inquiète l'UNESCO et les archéologues du monde entier. Ils redoutent la destruction d'un patrimoine inestimable. Lundi, ce sera le dossier du jour de Zoé Sfez.
60 postes vont être supprimés au journal Metro News.
Le groupe TF1, propriétaire du quotidien gratuit, annonce la suppression de la version papier pour faire face, je cite, à la crise du marché publicitaire.
Le Nicaragua refuse de recevoir le caricaturiste, j'ai toujours du mal à le dire, Jules.
Il se rendait au Nicaragua pour un forum d'écrivains, un forum qui commençait par un hommage à Charlie Hebdo. Jules avait collaboré au journal il y a 5 ans, l'ambassade de France n'a pas réussi à faire changer d'avis les autorités qui n'ont pas donné d'explication.
Et la dernière ?
La dernière, c'est une histoire de casting qui tourne au cauchemar. La scène s'est déroulée.
Et de camping.
Et de camping, puisque la scène s'est déroulée en Gironde, près d'Arcachon. Un gigantesque casting d'enfants était organisé pour le tournage de Camping 3, la suite de la comédie de Fabien Otoniente. Les organisateurs attendaient 500 ou 600 enfants. C'est déjà énorme. Ils étaient plus de 3000 à se presser sur les barrières dès l'aube avec tous leurs parents. Vent de panique à Arcachon. La police a dû intervenir face à cette invasion. La circulation a été dévastée. Et la responsable du casting a expliqué que c'était une grosse erreur d'avoir posté l'annonce sur les réseaux sociaux puisque les enfants sont venus de loin alors qu'ils voulaient à la base faire un casting plutôt local. Le tournage de ce film plein d'enfants aura lieu cet été au Pilat-sur-Mer.
Ça vous a fait rire, Valérie Thorragnan.
Oui, j'imagine l'invasion des enfants. L'invasion. Une espèce de guerre des boutons, là, comme ça. C'est
le rêve de Logan Goumar.
Tout ça pour Camping 3. C'est magnifique. D'autres réactions à ce que l'on vient d'entendre ? Où on commence ? Allez, c'est parti.
19-20, le rendez-vous. C'est sur France Culture.
Plateau fiction documenté avec vous, Valérie Thorragnan. Vous êtes rédactrice en chef de la revue Des Deux Mondes, après avoir été la rédactrice en chef du magazine Elle pendant 12 ans. Et vous signez aujourd'hui votre premier roman, L'étrangère chez Flammarion, qui retrace le parcours de votre grand-mère, Avrani, une arménienne de Turquie rescapée du génocide arménien. Ce livre raconte à la fois son parcours, mais aussi votre propre découverte de cet héritage douloureux. Pourquoi avoir attendu, j'imagine que c'est la première question qu'on vous pose, si longtemps avant de coucher cette histoire ?
De même que j'ai mis beaucoup de temps à recueillir cette histoire, de même il m'a fallu du temps pour la coucher sur le papier et puis Il y a un an, je me suis rendu compte qu'on allait commémorer le centenaire du génocide arménien et que j'avais toujours ce carnet noir dans un tiroir de mon bureau et que j'y avais jamais touché depuis la mort de ma grand-mère et j'avais recueilli quand même des bribes. Et après, ce qui est difficile aussi, c'est comment on se coltine avec ça, parce que c'est une histoire, c'est les rescapés, les survivants des entreprises d'extermination totale, on comprend pourquoi ils ont du mal à raconter, c'est indicible, mais alors après, quand soi-même on se dit je vais retransmettre ça, comment je vais le faire sans sombrer dans le pathos, sans être juste dans une narration qui est à la fois affreuse et sordide, et puis peut-être qu'à un moment donné j'ai trouvé et je me suis dit que c'est mon regard de petite fille qui allait être la trame de l'histoire, et cette petite fille au fur et à mesure de ses souvenirs avec cette grand-mère, et que j'entrelace cela avec l'enquête, voilà, qui m'a permis aussi de reconstituer les choses que je ne savais pas encore de la vie de ma grand-mère.
On va rentrer dans le récit et dans son dispositif littéraire. Mais d'abord, une question. Est-ce que vous êtes allé à Yerevan avec le président François Hollande ?
Oui, j'ai eu cette chance, cet honneur. Et ça a été un voyage éclair. Et voilà, François Hollande connaît la question arménienne et la cause arménienne depuis longtemps. Il fait ce voyage, mais bon, je pense que ce n'est pas de pur opportunisme. C'est vraiment une question qu'il connaît et qu'il a défendue avec des mots justes. Et c'est très drôle parce que j'étais à Yerevan et je ne me suis jamais aussi sentie française que là-bas, parce qu'il y avait ce sentiment de me dire... Le président de la République de France vient de dire des choses quand même fortes et belles sur ce génocide qui n'est toujours pas reconnu par les Turcs. Et c'est ça pour moi aussi la France, c'est que je suis d'un héritage qui vient de ce drame, mais je suis tellement française par tous les pores de ma peau, et aussi parce que je viens d'un héritage qui est un héritage d'ailleurs. Et le fait que ce mot de justice soit prononcé, c'est cette France dont, je pense, ont rêvé mes grands-parents quand ils ont débarqué à Marseille, celle des grands hommes du 19e siècle, des Anatole France, des Victor Hugo, de tous ceux qui avaient déjà à l'époque pris la défense des Arméniens persécutés. Et voilà, il y avait tout d'un coup une continuité. J'étais fière, c'est un peu bête à dire, mais c'était absolument sincère et c'est ce que j'ai ressenti.
Qui vous avez rencontré là-bas ?
Bah, vous savez, on a été reçus à l'ambassade de France à Yerevan avec le président de la République et les gens de la délégation. Il y avait des historiens qui avaient travaillé sur la commémoration. Il y avait aussi des personnalités du mémorial de la Shoah. Enfin, il y avait toute une délégation assez variée. Et ensuite, on s'est rendu sur les lieux mêmes de la commémoration et on a assisté au déroulement assez solennel et assez émouvant. Et on est reparti assez vite parce que le soir même, il y avait aussi une commémoration à Paris. Où on voulait être présents les mêmes personnes qui étaient dans la délégation. Donc c'était quelque chose d'assez extraordinaire et une espèce de voyage éclair dans une histoire, dans le temps. Pas dans mon pays, parce que ce n'est pas mon pays, c'est une partie de mon histoire, mais ce n'est pas mon pays. Mais c'était quand même évidemment très émouvant.
Alors justement, on va revenir sur le roman, mais tout au long du roman, la France apparaît un peu sous un jour assez ambigu. D'abord, il y a les Français qui sont alliés des Grecs, mais qui abandonnent un petit peu les Arméniens à leur sort. On dit planche pourrie, je crois que c'est une des expressions de la marraine de votre grand-mère. Plus tard, lorsque votre grand-mère émigre à Marseille avec son mari, on comprend qu'il y a une difficulté des autorités à gérer cet afflux d'Arméniens. Puis vous rappelez que dans les années 70, il est interdit de parler de génocide pour les Arméniens, parce qu'il ne faut pas contrarier les Turcs. Comment est-ce que vous regardez justement toute cette attitude aujourd'hui ?
Ce sont des moments très différents. Le rôle des alliés pendant la guerre de 14-18 et le rôle qu'ils ont tenu par rapport à la Turquie et au génocide, il y avait à la fois des ambassadeurs comme les ambassadeurs américains, comme des personnalités importantes dans la guerre qui étaient présentes et qui dénonçaient. Évidemment, la coalition, les Turcs et les Allemands étaient alliés, la France et l'Angleterre étaient dans l'autre camp. Mais après, les alliés ont gagné. D'ailleurs, ma grand-mère est rescapée, elle se retrouve à la fin, elle se cache jusqu'à la fin de la guerre parce qu'on cherche les réfugiés arméniens. Elle est à Constantinople quand les alliés ont gagné. Quand les Anglais arrivent à Alep, d'abord, c'est l'allié, c'est-à-dire qu'ils sortent tous de leur cachette. Et puis petit à petit, Mustapha Kemal arrive, reprend le dessus. Il ressoude, et y compris des éléments anciens cette armée jeune turque qui a été auteur du génocide. Et là, il y a une espèce de panique chez les réfugiés parce qu'ils se rendent compte que les alliés, ils vont faire affaire avec Kemal et que eux, il va falloir qu'ils fassent très attention et surtout qu'ils s'en aillent. C'est cette idée-là, c'est que ne comptons sur personne parce que aujourd'hui, il va falloir qu'ils négocient. Donc, il va falloir que nous, on s'en aille parce qu'on sent qu'on ne sera plus du tout désiré dans ce pays. Et dans les années 70, vous rappelez quelque chose de très juste.
Ah, qui est dans le roman.
Voilà. Oui, mais voilà, vous rappelez quelque chose du roman. C'est les Arméniens célébraient le 24 avril. Il y avait des commémorations à l'église. Il y avait des centaines d'Arméniens, des fois, qui se rassemblaient, soit devant le parvis de Notre-Dame, soit des endroits pour... Et c'était strictement interdit. Et c'était violemment impossible. Enfin, c'était... interdit, impossible, parce que il fallait pas mécontenter la Turquie et les relations avec la diplomatie turque, qui était vent debout contre toute expression, même de dire qu'il y avait eu un génocide.
Tout le livre repose sur un dispositif de double récit. En alternance, on suit votre grand-mère, Avrani en déportation, ses métiers pour survivre, la disparition de ses proches, sa sœur qui est vendue à des nomades pendant la déportation, ses métiers pour survivre, la disparition de ses proches, son arrivée à Marseille avec son mari, puis sa nouvelle vie à Paris jusque dans les années 90. Et parallèlement, le récit adopte votre point de vue de petite fille, puis d'adolescente et de jeune femme qui change de regard sur cette grand-mère mystérieuse. Comment ce jeu d'équilibre s'est mis en place? Parce que c'est ça qui vous permet de parler de cette histoire.
C'est comme ça que je m'en suis sortie. Je me suis dit que la petite fille avait un rôle très important et que c'était la façon la plus... Enfin, c'était donner du corps et donner une pulsion vitale à ce récit et ne pas l'enfermer dans quelque chose qui était forcément très triste, quoi. Et c'est cette petite fille qui regarde cette grand-mère, qui a une grosse poitrine, qui a une bouclée, qui a les paupières qui tombent. Et moi, j'ai...
Qui baragouine le français.
Qui baragouine le français. C'est... J'appelle le livre L'étrangère car elle vit sous mon toit. Enfin, on est sur deux appartements et je suis très proche d'elle. Et
vous allez manger des pâtisseries, regarder la télévision.
Voilà, en cachette, parce que c'est interdit chez moi. Exactement, tout ce que je n'ai absolument pas le droit de faire. Et elle est ma complice, elle me nourrit, elle me regarde avec bonheur manger, parce que mange ma fille, parce que tout ce que nous sommes beaucoup à être morts, mais toi tu vas vivre, et mange donc, et remange. Et puis, elle est ce regard de petite fille, c'est ce qui va me permettre petit à petit de cette relation particulière, on la noue à travers la nourriture, puis petit à petit après, à travers le langage. Mais c'est voilà, c'est le destin d'une enfant qui est tiraillée entre une maman qui a les cheveux raides, blonds et les yeux bleus,
française, qui s'appelle Françoise, française,
et qui en plus voilà s'appelle Françoise comme la France, et qui en plus est professeure de français, latin et grec. Donc elle est vraiment dans un moule français. Et à côté de ça, j'ai cette grand-mère qui est une femme orientale qui ne parle même pas le français. Et moi, je suis tiraillée dans un conflit de loyauté entre les deux, et j'articule un peu mes positions en fonction de mes intérêts et de mes amours, mais j'adore ma mère et je vois que quand même, je ressemble terriblement à ma grand-mère.
Alors justement, votre grand-mère, Aravni, quand on plonge dans son récit, elle a 17 ans, elle vit à Amasya, lorsque son père et son tout jeune mari qu'elle vient d'épouser sont déportés et... semble-t-il exécuté par justement les jeunes turcs. Elle aussi va être déportée avec sa sœur, sa mère et sa marraine par un convoi. Alors vous retracez tout son parcours, toute sa déportation, la manière dont elle survit en prenant un train pour Alep, où la communauté arménienne qui est encore assez épargnée va réussir à la sauver. Dans sa déportation, elle perd sa sœur, donc qui est vendue sur la route à des nomades par les officiers turcs qui sont assez terrifiants dans ce livre. Puis sa mère qui meurt d'épuisement et de chagrin. Comment est-ce que vous avez reconstitué ce trajet? Quelle est la part du récit? Quelle est la part de l'enquête qui vous a aidé à la reconstruire?
Les carnets noirs, c'est la base. C'est-à-dire que j'ai été voir un historien, Aroutyun Kevorkian, qui est le grand spécialiste de la déportation au sens technique. C'est-à-dire qu'il a vraiment répertorié absolument tous les trajets, ville par ville. Et je lui ai dit, voilà, ça c'est les notes de mon carnet. Ma grand-mère m'a dit ça, elle est passée là, est-ce que c'est possible? Et avec moi, il me disait, oui, absolument, elle a dû passer par là, là, etc. Voilà, là c'était les centres, les camps abattoirs. Alep, c'est là qu'il m'a dit, tu vois, là où elle prend le train pour regagner, quand elle te dit qu'elle prend le train, elle a dû forcément le faire à cet endroit-là. Et cet endroit-là, aujourd'hui, c'est Kobané.
Kobané, ouais.
J'écrivais le livre et il y avait les images de Kobané à la télévision. Et c'était une espèce de télescopage de l'histoire. Voilà. Donc j'ai reconstitué dans les trous de l'histoire avec des historiens, de même que sur toute sa vie à Marseille. J'ai beaucoup enquêté sur la communauté arménienne de Marseille dans les années 20, la difficulté que ça a été d'arriver. C'était une immigration, on les a absolument pas accueillis chaleureusement. Il y en avait trop, ils sentaient mauvais, ils avaient une nourriture bizarre et ils étaient porteurs de la peste. Enfin, c'était des choses qui étaient écrites dans les journaux. Aujourd'hui, quand on s'insurge sur les propos xénophobes, faut pas oublier, l'histoire se répète. Et elle a même été pire envers les étrangers dans les mots que ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais ils ont vécu tout ça et puis après, c'est Paris et... un autre aspect de sa vie.
Parmi les scènes les plus marquantes et les plus terribles du livre, plusieurs sont liées à la maternité. Plusieurs femmes, par exemple, sur le trajet, abandonnent leur bébé à une mort certaine. Il y a une scène absolument hallucinante d'un champ de bébés abandonnés qui vont être dévorés dans la nuit par les chiens. Plus tard, une des compagnes de voyage supplie un couple d'Américains de passage d'adopter un enfant. Cet enfant s'appelle Astrig, qui est aussi votre prénom arménien. Il y a un lien ou c'est un effet romanesque ?
Non, c'est... Je me suis dit, cette femme qui abandonne cet enfant, c'est tellement difficile que, voilà, je lui ai donné mon prénom. C'était une manière de me, voilà, de moi aussi me...
D'être dans l'histoire.
Me mettre dans l'histoire, ouais, ouais. Et tout ça, ce sont des choses qui ont vraiment existé. Et ces femmes qui abandonnaient leur bébé, ma grand-mère m'a raconté ça à la fin de sa vie, et elle en était non seulement bouleversée, mais en colère. Et je parle de cette colère à un moment donné dans le livre, où elle est révoltée, et elle est révoltée. Et à mon avis, c'est une espèce de transfert. Elle est révoltée. Elle dit pas, c'est inhumain. Comment des êtres humains peuvent faire ça à d'autres êtres humains? D'être tellement épuisé et au bord de la mort qu'on abandonne son bébé qui est lui-même à l'agonie. Elle disait, tu te rends compte, ces femmes, ce qu'elles ont fait? Et je lui disais, mais ces femmes, comment peux-tu les juger? Elle me disait, mais quand même, comment une mère peut abandonner son enfant? Et c'est vrai, il y a beaucoup de choses marquantes avec les enfants, ces enfants qu'on vend, qui vont devenir des enfants dans des familles turques ou nomades, ces enfants qu'on donne, ces enfants qu'on essaye de sauver, et l'obsession après le génocide des Arméniens à Constantinople, ça va être de récupérer les enfants qui auront été vendus pendant les 3 ans de la déportation dans des familles. Ouais.
Alors, cet enfant, c'est-à-dire vous, dans le roman, a plutôt honte de cette grand-mère plutôt bizarre, donc oui. Cette étrangère. Et il y a une scène fondatrice qui va changer son regard sur cette grand-mère. Et cette réconciliation passe par le vêtement. C'est une jupe marron qu'elle vous a tricotée, que vous trouvez absolument affreuse, mais qui va être encensée par votre professeur de sport. Qu'est-ce que cette scène dit en sous-texte de votre rapport à la mode, sachant qu'on a devant nous donc l'ex-rédactrice en chef du Elle, surtout que vous ouvrez aussi le roman sur une scène terrible, hein, une petite fille qui va sauter d'un train, avec des considérations vestimentaires, souliers blancs, manteau et collant de laine. Oui. Valérie Thoragnan.
C'est mon souvenir de cette scène. Je revois mes pieds et ces collants et le bas de ce petit manteau. Donc voilà, je suis ce petit bloc de petite fille qui va tomber du train.
Et... Non seulement tomber du train, mais passer sous le train.
Oui, je passe enfin voilà entre le quai et le train qui démarre. Donc voilà, et c'est là que ma grand-mère dit ce jour-là, j'ai compris que la main de Dieu était sur toi, comme elle a été sur moi aussi, et qu'elle m'a protégée de bien des choses. Et l'épisode de la jupe c'est un des premiers. Peut-être même le premier chapitre que j'ai écrit. Ah oui. Et c'est intéressant parce que je cherchais un peu la construction et tout d'un coup, cet épisode m'est revenu. Mais je le vis et je le revois toujours d'une manière tellement forte. J'arrive au collège avec cette jupe que je porte pour faire plaisir à ma grand-mère et parce qu'elle va être heureuse de savoir que je l'ai portée. Et moi, c'est un cauchemar hallucinant parce que c'est juste un truc immonde avec des torsades marron.
Alors que tout le monde est en jean.
Et puis, c'est l'époque où toutes les filles ont des jeans, des pulls Shetland, des sabots. Et moi, je suis vraiment la fille complètement à côté de tout ça. Et le jean, chez moi, ce sera une lutte pour obtenir le droit d'avoir un jean. J'attends d'avoir 13-14 ans, donc j'étais pas du tout dans une famille comme ça. Et finalement, cette professeure de gymnastique, elle va cautionner cette jupe qui est pourtant, pour toutes mes amies et moi, le summum de la chose importable et absolument pas la mode, immonde, un vieux truc de grand-mère, un tricot voilà, qui n'a aucun intérêt. Et elle prend ça entre ses mains, elle me dit, mais dis donc, qui c'est qui t'a tricoté ça? Quel travail magnifique. Et à ce moment-là, il y a une espèce, je suis adoubée par cette femme qui est le comble de, elle est sexy, elle est belle, elle est jeune, tout le monde l'adore, on est tout amoureuse d'elle dans la classe. Et c'est tout d'un coup une intronisation, mais au-delà de, elle reconnaît cette jupe et je pense que aussi elle reconnaît que ce que je suis et cette identité qui est tellement difficile à tricoter pour moi, c'est le cas de le dire, eh bien, ça a aussi quelque chose qui peut être admirable au sens de, non, c'est pas seulement honteux, ta grand-mère avec une grosse poitrine, il y a des choses là-dedans qui sont belles. Et je pense que ça a été très constitutif de mon identité.
Olivier Saillard, peut-être un commentaire sur tout ce que vous venez d'entendre de Valérie Thoragnan, que vous connaissiez bien par ailleurs.
Oui, non, j'adore ces histoires de jupes. Et probablement que ce sont ces jupes-là qui sont les plus rares dans les musées de mode. Sont celles qui sortent des ateliers haute couture. Donc si un jour on la trouve, je vous assure qu'on la bichonnera.
Alors ensuite, vous avez donc appris l'arménien. C'est comme ça que vous avez d'ailleurs communiqué avec votre grand-mère. Et puis vous avez épousé une figure de la diaspora arménienne à Paris, Ara Thoragnan, dont vous portez le nom, avec qui vous avez eu 2 enfants, qui eux portent des prénoms arméniens. Alors que vous, je le rappelle, vous aviez des prénoms français et un second prénom arménien. Vous avez confondé avec lui en 1992 la revue Les Nouvelles d'Arménie. Alors à quel besoin peut-être du monde et de vous correspondait cette revue à l'époque?
C'est Il faut se remettre dans ce contexte, c'est la République d'Arménie vient de naître. C'est après la chute du mur de Berlin, il y a eu un traumatisme énorme en Arménie en plus, qui était le tremblement de terre. Et ce pays est exsangue, il est à construire, et c'est une nouvelle République avec un jeune président. Et c'est la première fois, enfin, il y a eu des épisodes d'indépendance, mais c'est la première fois qu'il y a une République arménienne indépendante. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez passionnant et excitant. Et là, c'est autant moi comme arménienne et héritière d'une histoire que aussi journaliste. C'est-à-dire que c'est un sujet qui devient passionnant. On va là-bas, on rencontre les gens du gouvernement, les discussions sont absolument géniales, et quelle constitution il faut faire, les Arméniens de la diaspora, tout le monde discute, voilà ce qu'il faudrait, est-ce que les Arméniens de la diaspora vont avoir un passeport arménien. Enfin, il y avait une espèce comme ça de sentiment euphorique d'un début de quelque chose, et ça s'est traduit par ce magazine que je faisais, je précise, en plus de mes...
De vos autres activités.
Valérie Torragnan, comme à tous nos invités depuis le début de la saison, on vous a demandé de nous apporter un son qui vous a marqué, et voici ce que vous avez choisi.
Mais que c'est Dieu de moi, toi qui parles si bien, toi qui dis me connaître, et pourtant ne sais rien. Que c'est Dieu de mes rêves et de quoi ils sont faits, si tu les connaissais, tu serais stupéfait. Tu ne sauras jamais. Tu ne sauras jamais, après quoi je soupire.
C'est pas très Mariti, Gilbert Carpentier, quoique.
Ah, quoique. Oui.
Hein, alors, la raison de ce son.
D'abord, c'est Nathalie Dessay qui chante, et elle chante la chanson de Delphine dans Les Demoiselles de Rochefort. Et cette chanson, c'est un... Voilà, ça fait partie... D'abord, je me suis dit que ce serait bien d'avoir une petite note un peu gaie dans toute cette discussion. Et d'abord, j'ai une passion pour ce film et je pense que je suis bien une Française de ma génération à travers ce film. Et puis, c'est Nathalie Dessay et c'est aussi l'admiration que je lui porte et que je porte pour les grandes voix de l'opéra. Et tout d'un coup, que cette rencontre entre elle et Michel Legrand, qui d'ailleurs a des origines arméniennes.
Exactement.
Et les Demoiselles de Rochefort, c'était, pour moi, ça fait partie des cocktails extrêmement toniques. Je mets ça et immédiatement, j'ai la pêche pour une semaine, quoi. Donc voilà. J'espère que ces quelques secondes, on a pu la communiquer à nos auditeurs.
Le rendez-vous, la chronique.
Valérie Torragnan, Olivier Saillard, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite c'est la chronique Place de la Toile de Xavier Delaporte, rédacteur en chef de la revue 89, avec qui nous sommes en partenariat. Xavier, ce soir ?
Ce soir, on va pas rigoler beaucoup, non plus. L'Université de Californie du Sud a créé une machine étrange. Elle s'appelle Ellie, et son but dans la vie est de détecter chez les militaires les signes d'un syndrome post-traumatique ou de la dépression. Bon, le but n'est pas de soigner, comme la presse d'ailleurs l'avait dit de manière un peu trompeuse au début de l'expérience, mais d'établir un diagnostic, les psys prenant la suite pour la cure si nécessaire. Néanmoins, maintenant que la méthode est éprouvée, il est curieux de voir comment Ellie s'y prend. Un reportage de la NPR, la radio publique américaine, permet de se faire une idée. D'abord, quand la personne examinée s'installe en face de l'ordinateur, Ellie parle avec une voix féminine, assez douce et enjouée, et précise qu'elle n'est pas là en tant que thérapeute, mais pour apprendre des choses. Et dis donc, Ellie pose des questions aux patients ou aux futurs patients. Comment allez-vous aujourd'hui ? Et pendant que la personne répond, Ellie enregistre tout ce qui se passe avec des micros et des caméras. Ellie demande, quelle est la décision la plus difficile que vous ayez eu à prendre ? Le soldat répond et Ellie cherche des signes, alors pas des signes sémantiques, mais des signes comportementaux. Ce qui intéresse le logiciel, c'est pas ce que la personne dit, c'est la manière dont la personne répond. Et ceci grâce à une récolte de données qui prend en considération des micro-expressions. Le logiciel capte les mouvements de la bouche, des yeux, des sourcils, mais qui analyse aussi le ton de la voix et les gestes du corps. Et une fois enregistrées, toutes ces données sont comparées à celles d'autres soldats qui ont combattu sur le même terrain. Alors la question qu'on se pose évidemment, c'est pourquoi un programme informatique et pas un être humain pour faire ce travail ? L'un des inventeurs du logiciel explique que les signaux donnés par un visage peuvent être contre-intuitifs. Et il cite comme exemple les sourires. Quelqu'un de déprimé, dit-il, peut sourire autant que quelqu'un qui va bien. Mais il y a des sourires qui sont moins affirmés, qui durent moins longtemps. Des sourires polis, mais pas de vrais sourires, pas des sourires affirmés, des sourires qui ne viennent pas du fond du cœur. Bon, ça... Ok, mais quelqu'un d'attentif pourrait le détecter, se dit-on. Certes, mais les chercheurs se sont aperçus que la machine est plus apte à lire certains de ces signes microscopiques que les psys, dont l'écoute et la lecture des signes minimaux peut être perturbée, donc par toute une masse d'autres signaux. La vraie supériorité de la machine, pourtant, elle se trouve ailleurs, et c'est ça qui est le plus intéressant. Les chercheurs se sont rendus compte que pour les soldats, il était plus facile de parler à une machine qu'à un être humain. Et de fait, un ancien soldat américain en poste en Afghanistan raconte à NPR que quand il s'est trouvé face à Ellie, la machine lui a demandé s'il regrettait quelque chose de sa mission là-bas. Et lui, à son propre étonnement, s'est mis à raconter qu'un jour, alors qu'il dirigeait un convoi qui traversait Kaboul, il a aperçu sur le côté de la route, et on retrouve vos histoires, Valérie Torignan, une femme qui tenait un enfant dans ses bras, et que cet enfant lui paraissait ou lui a paru mort aux soldats, et qu'il n'avait pas fait arrêter le convoi pour autant, et que depuis, il regrettait de ne pas l'avoir fait, de ne pas avoir vérifié s'il pouvait faire quelque chose pour cet enfant. Et le soldat d'expliquer que s'il répond plus volontiers à une machine, c'est qu'il ne voit pas de réaction quand il parle. Pas de sourcils s'élever, pas d'yeux de se froncer. Ça peut paraître dingue qu'un humain préfère à certains moments de sa vie se confier à une machine qu'à un être humain. Mais pour ça, il faut peut-être revoir le magnifique et terrifiant film de Laurent Bécu-Renard, Hoffman and War, qui a suivi pendant plusieurs années un groupe d'anciens soldats américains en mission en Irak et en Afghanistan, soignés pour des syndromes post-traumatiques très lourds. Bien sûr, alors ce que Bécu-Girard a suivi, ce sont des hommes qui sont déjà diagnostiqués, déjà détectés. Mais ce qu'on mesure dans le film, c'est que leur problème précisément, c'est de raconter. Dans le groupe d'une quinzaine de soldats suivis par le réalisateur, un cas est particulièrement frappant, c'est un homme qui a l'air très mal, qui est très agressif et complètement fermé. Au début de la thérapie, assez vite, il raconte quelque chose, il raconte une scène de guerre qui dit le hanter, il s'agit d'une histoire de checkpoint où il tire alors qu'il n'aurait pas dû tirer, et puis pour se racheter, ils vont donner des cadeaux à la famille. Et puis qu'un jour, alors qu'ils pensent être rachetés en donnant des cadeaux à la famille, la jeune fille qui va se marier leur explique qu'elle veut un seul cadeau, c'est qu'il dégage de là et qu'il meurt. Mais le fait d'avoir raconté cette histoire ne change rien dans son agressivité. Il continue d'agresser les autres membres du groupe et de montrer des signes du plus grand malaise, jusqu'à ce que, à la toute fin du film, on n'a pas idée du temps qui s'est écoulé, il raconte vraiment ce qui fait le nœud de son malaise. Il a tué un camarade de chambrée. Bêtement, alors qu'ils discutaient tous les deux dans le baraquement, lui jouait avec son arme, elle était chargée, le cran de sûreté n'était pas mis et le coup est parti. Et ça, il s'en remet pas. Et on comprend à ce moment-là que le pire est de parler. Le pire est de parler devant des hommes qui auraient pu être celui qui l'a tué, de parler à des hommes. Et bien sûr, ce moment n'est pas un moment diagnostique, mais il dit qu'il y a quelque chose de particulier dans ces traumatismes de guerre, c'est qu'ils sont toujours honteux. Parce qu'ils souffrir de la guerre est terrible pour ces hommes qui sont physiquement très impressionnants et qui y sont allés parce qu'ils le voulaient, et que donc toutes les médiations imaginables sont possibles pour commencer le travail. Or, la machine, elle n'a pas de corps. Et elle ne juge pas.
Des réactions, Valérie Torignan, je vous voyais très attentive.
Ah oui, c'est assez fascinant de s'imaginer que c'est toujours cette histoire de l'indicible, hein. On tourne autour de ça et que l'humain, en face de l'humain, parfois, est absolument incompétent. C'est-à-dire qu'on... Moi, je persiste à croire que... il y a une bienveillance dans l'humain qui n'y a pas dans la machine et que peut-être qu'il y a un diagnostic qui peut se faire face à une machine, mais après tout ce qui se passe et qui se transmet, ça n'a de sens que parce qu'on parle à d'autres humains. Et même la réparation, je pense que ça a aussi de sens par rapport aux autres.
Olivier Saillard, je voyais terrifié à l'idée qu'on préférait parler à une machine qu'à un être humain. Je vous ai vu réagir à ce moment-là.
Un peu d'abord, mais après je me demande quand même si c'est quand même pas mieux de parler à un mur, à une machine, que de ne pas parler du tout. Alors bien sûr, c'est mieux quand c'est un être humain, mais il y a tellement d'individus, et ce n'est pas seulement cette catégorie qu'on vient de signifier, qui ne savent pas parler, qui n'entendent même pas leur parole intérieure, qu'il me semble que quand la parole arrive, c'est déjà un pas de gagné. Je n'ai pas compris après comment on aidait à guérir cela, mais cette machine, c'est un grand scan. Je suis plus curieux que choqué.
Le rendez-vous.
Cette collection est le reflet de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui.
Vous savez, c'est très difficile d'écrire une collection parce que je pense que d'abord, cette fois-ci, c'est surtout un état d'esprit.
Il faut changer d'état d'esprit avant de changer de vêtements.
Ce qui compte dans la mode actuelle, c'est pas tellement une question de longueur, de lignes, de détails. C'est surtout un état d'esprit, une liberté.
Elle s'adresse à une femme gay, vivante, possédant toutes les armes de la séduction et usant de tous les artifices pour y parvenir.
C'est très difficile, de décrire moi-même ma collection. C'est plutôt à vous de la décrire, parce que pour moi, c'est une chose plus personnelle, je veux dire, que des détails.
Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Plateau Mode avec vous, Olivier Saillard. Vous êtes historien de la mode, directeur du Palais Galliera, musée de la mode de la ville de Paris et performeur régulièrement programmé au Festival d'automne. On y reviendra. Programme chargé pour vous. Vous êtes commissaire notamment de deux expositions à Paris. Il y en a d'autres, hein. Yves Saint-Laurent 1971, c'est la collection du scandale. C'était à la Fondation Yves Saint-Laurent Pierre Berger à Paris. Et puis Jeanne Lanvin au Palais Galliera. Alors, s'il fallait faire un lien entre les deux, Jeanne Lanvin, figure de la haute couture des années 1910 jusqu'aux années 40, et Yves Saint-Laurent, est-ce qu'il y en aurait un ou pas forcément ?
Stylistiquement, pas tant que ça, encore que je pense que ce soit des couturiers qui se sont adressés à une entreprise créative vestimentaire pour les femmes. Ça a l'air un petit peu scandaleux de le dire aussi simplement, mais parfois, les couturiers l'oublient. Donc, il y a peut-être ça, ce qui fait qu'il y a une ligne un petit peu esthétique qui peut aller vers l'intemporel, qui peut aller vers une certaine fluidité et une simplicité.
Alors, on va faire simple, on va faire l'une après l'autre. Pour Jeanne Lanvin, vous avez regroupé les robes manteaux par thématique et non par ordre chronologique. Les vêtements sont aussi présentés sur des mannequins dans la pénombre et très souvent aussi couchés sur des miroirs. Albert Elbaz, le directeur artistique de Lanvin qui co-signe l'exposition, explique qu'il voulait présenter ses robes comme des fleurs évanouies. Qu'est-ce que raconte cette image de Jeanne Lanvin ?
En fait, quand on allait avec Albert Elbaz dans les réserves du musée Galliera, on découvre toutes les robes qui sont dans des tiroirs, allongées, comme des belles endormies. Et c'est un moment de toujours très poétique parce qu'on y découvre un patrimoine qui est riche de 140 000 pièces. Tous ces vêtements, pour ne pas dire ces dépouilles, sont accumulés dans des tiroirs. Quelque chose d'assez étrange. Tilda Swinton avait cette jolie phrase. Elle disait, quand on arrive dans les réserves du musée Galliera, on a l'impression que c'est une morgue, ouais. Et quand on vous voit travailler, on ressort avec l'idée que c'est une nurserie. C'est ça.
À peu près le même geste, ouais.
Et ça fait longtemps que on avait envie, et Albert Elbaz en avait envie aussi, de réduire cette fiction du corps que l'on a dans les expositions au maximum. Et c'est vrai que moi, je préfère de loin les robes sans corps que cette espèce de fiction de mannequin de bois ou de mannequin de plastique qui restitue pas ce côté vivant. Et cet évanouissement qui parle de la mode, qui parle de la vie, qui parle de ceux qui l'ont porté, me paraît plus juste en exposant ces robes comme des feuilles à peine éteintes. Moi, je les trouve aussi un peu sous hypnose, comme ça, dans l'expo. Et elles revivent par un effet de miroir qui les fait flotter.
Zoé.
Alors, Jeanne Lanvin, elle a commencé comme modiste à la fin du 19e siècle, les chapeaux. Et alors, selon vous, elle va écrire, je vous cite, les plus belles pages de la haute couture avec de la mesure et non de la démesure. Vous la décrivez plus loin comme discrète. Sur le plan technique, ça signifie quoi ?
C'est difficile à expliquer, mais par exemple, on va faire un paysage. La géographie de la mode, surtout au début du 20e siècle, est très préoccupée de la scandaleuse Mademoiselle Chanel, de Elsa Schiaparelli. Elles ont pour elles d'avoir des physiques en plus qui sont très agréables. C'est pas le cas, par exemple, de Jeanne Lanvin ou de Madeleine Vionnet. Madeleine Vionnet est très virtuose, Madame Gray est très technicienne. Jeanne Lanvin, on l'a considérée comme une discrète, en effet, qui a fait son travail. C'est la maison la plus ancienne encore en activité. On l'oublie parfois. Il n'y a pas de logo, par exemple, sur les vêtements. Il n'y a pas un monogramme. Elle a fait vraiment un travail tout dans la discrétion. Je pense que d'écrire, en effet, cette entreprise simple, pourquoi couper une robe à mi-poignet plutôt que sur le poignet? Pourquoi ça devient une forme d'élégance plus soutenue qu'autre chose? Un volume de robe, un volume du manche, parce que ça a été beaucoup là où elle a voulu s'incarner, c'est un art de l'équilibre. Parfois, c'est plus dur de faire, on le sait, moins que de faire beaucoup plus comme un espèce de porte-drapeau de sa création.
Alors, il y a un élément emblématique des créations de Jeanne Lanvin, c'est la robe de style, ce qu'on appelle la robe de style. Alors que les années 20 ont privilégié une silhouette longiligne qui aplatit les courbes de la femme, Jeanne Lanvin va lancer des robes taille basse et bouffantes en écho au XVIIIe siècle et des robes à paniers. Comment vous comprenez ce changement de silhouette à cette époque ?
C'est un peu curieux. D'ailleurs, c'est pas ce que je préfère dans le travail de Jeanne Lanvin. Moi, je préfère vraiment avant et après. Cette histoire de robe de style est une espèce de forme d'archaïsme. C'est comme si on avait des robes 18e qui s'étaient dégonflées un peu. On a enlevé les paniers.
Et pour Dior, c'est vraiment ça la marque de Lanvin.
Alors que vraiment. Et ça a vraiment dicté une forme de mode dans toutes les années 20 avec les robes perlées qui étaient des robes bijoux. C'est presque une anomalie dans l'histoire de la mode, mais c'est au crédit de Jeanne Lanvin.
Je crois que vous avez vu l'exposition. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, justement ?
J'ai pas encore vu l'exposition, mais je connais un peu le travail de Jeanne Lanvin. Et j'aime beaucoup cette idée de ces fleurs évanouies, parce que le rapport aux vêtements sur le mannequin n'est pas du tout le même pour l'imaginaire que ce qui se passe quand on est face à, en fait, cette attitude qui renvoie à l'idée que la mode est éphémère et à l'idée surtout que c'est un vêtement. C'est-à-dire que ce n'est pas une exposition, mais on imagine qu'une femme l'a déposée sur un lit, qu'elle l'a regardée avant de la mettre. Et j'aime beaucoup, Olivier Sayer a beaucoup de sensibilité et il sait traduire les émotions de la mode. Donc voilà, c'est par tous ces petits détails-là qu'il est quelqu'un de particulier dans la mode.
Surtout que la disparition du mannequin, elle avait déjà été inaugurée pour l'exposition à l'AIA précédemment, c'est-à-dire que les robes semblaient flotter sans qu'il y ait de corps pour les incarner. Zoé Sfez.
Alors, dernière question justement sur Hélène Lanvin, sa principale source d'inspiration à cette femme, c'est sa fille, Marguerite, rebaptisée ensuite Marie-Blanche par son deuxième mari, qui lui inspire plusieurs robes, le symbole de la Marguerite, et surtout son logo, qui représente donc une mère qui tient sa petite fille par les bras. C'est une source d'inspiration assez singulière dans l'histoire de la haute couture. C'était quoi leur rapport et qu'est-ce que Hélène Lanvin est allée puiser dans cet amour maternel inépuisable, on dirait?
Alors, il y aurait beaucoup à dire, beaucoup à creuser sur cette relation mère-fille dont vraiment je ne veux pas aborder les complications que ça a dû créer à l'âge de l'adolescence, mais il y avait en effet peu de maisons de couture qui faisaient une mode d'enfant avec les moyens de la haute couture. C'est venu tout naturellement à Jeanne Lanvin par le plaisir d'habiller sa fille et ensuite c'est devenu une histoire de style. La maison Jeanne Lanvin est sans doute la première maison qui a standardisé toutes les formes de création, qu'il s'agisse de la décoration, du parfum, enfant, homme, femme, haute couture, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui lifestyle, un style de vie adapté pour tous les jours de la journée et du soir.
Alors, quelques mètres plus loin, toujours rive droite, on saute quelques décennies à la Fondation Yves Saint-Laurent avec un focus sur une collection passionnante, celle du scandale de 71, une collection inspirée par sa rencontre avec Paloma Picasso, la fille du peintre, qui à l'époque s'habillait aux puces, une collection qui s'inspire directement de la mode des années 40, les années de guerre et d'un glamour qu'on juge alors de mauvais goût. Vous pointez dans cette collection l'effondrement des cloisons qui sépareraient la haute couture du prêt-à-porter et c'est en cela qu'elle serait fondamentale, c'est-à-dire qu'on en aurait fini avec la notion d'élégance avec cette collection, comme par exemple dans l'art contemporain, on en a fini avec la notion du beau. Qu'est-ce qui se joue là précisément?
En fait, il se joue beaucoup de choses. C'est une collection vraiment majeure. J'avais réalisé un ouvrage il y a quelques années sur l'histoire de la mode contemporaine.
Historicisme,
j'avais choisi de le commencer par cette collection parce qu'elle est vraiment fondatrice. C'est vraiment un four commercial pour la Maison Saint-Laurent. C'est un énorme scandale. Vraiment, les journalistes l'ont traité de nazi, l'ont appelé Yves Saint hideux. Vraiment, on a parlé de débâcle du goût. Enfin, vraiment, c'était très, très violent, comme jamais la presse ne l'a été, à part pour les créateurs japonais dans les années 80. Et c'est une collection qui, en effet, a une forme de jeunesse. C'est toutes les personnes, les clientes ou les chroniqueuses qui se sont offusquées étaient précisément celles qui avaient vécu cette période de guerre, de restrictions, où on n'avait pas encore compris qu'il pouvait y avoir de l'élégance dans cette débrouille, que c'était une réponse à l'occupant. En tout cas, on ne voulait plus le voir. Et Yves Saint-Laurent, en repuisant dans cette décennie-là, a été très attaqué parce qu'il y avait un côté très criard, très vulgaire à reciter cette période-là. Et là, surtout, en effet, décloisonner. La haute couture et le prêt-à-porter, ça ne voulait déjà presque plus rien dire dans les années 70. C'était vraiment un combat sur lequel on est toujours, qui n'a fait que se terminer. Dans les années 50, il y avait 60 maisons, il n'y en a plus qu'une dizaine aujourd'hui. Donc, et c'était déjà le cas dans les années 60. Donc c'était vraiment le sujet. D'une certaine manière, Yves Saint-Laurent a fait entrer la rue dans les salons de couture. Ce que j'aime à rappeler, c'est qu'il a fait vraiment un grand scandale. Pour moi, il a fait entrer l'histoire de la contemporanéité dans l'histoire de la mode avec 6 mannequins, 80 vêtements, pas de musique, juste des sièges.
Avec cette fille qui s'habillait dans les années qui s'habillait aux puces, est-ce que ça ne préfigure pas ce qui va se passer dans les années 80 plus tard?
Tout.
Exactement, parce que la référence des années 80, c'est aussi les années 40.
Oui, toutes les décennies. Et souvent, davantage aussi, c'est les années 70 sont les années 40, les années 80 sont un peu les années 70 et des années 40. Mm-hmm. Il y a un effet comme ça, une mise en abîme de la mode définitive. Et puis cette relation au mode rétro, c'est la première fois qu'on parle du kitsch, par exemple. Mm-hmm. On ne voit pas apparaître le mot avant. Tout cela va dicter un processus de création qui est encore valable aujourd'hui.
Valérie Thorignan ?
Je bois les paroles d'Olivier parce qu'il dit ça tellement bien, mais c'est ça, c'est surtout les années 70 qui sont un écho aux années 40 et on n'arrête pas de conjuguer cette grammaire et le vintage, il est né là, hein, c'est-à-dire cette passion.
Le rétro et le vintage est né là, alors que la mode avait déjà un rapport avec le passé, mais un passé très lointain, alors que pour la première fois, le temps s'était raccourci entre les années 40 et les années 70.
Absolument.
Dernière question, Zoé.
Vous dites que la haute couture aujourd'hui est moribonde, qu'elle est trop chère, qu'elle ne se vend pas assez. Vous défendez l'idée de la traiter, la haute couture, comme un art, pourquoi pas de la subventionner au même titre que l'art contemporain. Qu'est-ce que ce système-là pourrait apporter pour vous?
Des fois, faut pas trop écouter non plus. Je pense aussi que, je pense aussi que, par exemple, si on faisait de très jolies robes sobres, comme on fait des jolis costumes pour hommes, on n'aurait pas envie de les jeter et que peut-être qu'on pourrait mettre un peu plus de prix. Je pense que moi, j'ai l'avis qu'une robe de couture, ça ne doit pas se voir, que ça doit être extrêmement bien fait, mais pas visible.
Alors, c'est mal parti.
Mais je pense que ce serait une solution. Alors, on va parler des métiers, des brodeurs, etc. Je crois que je n'ai ajouté qu'un sentiment enlisé dans cette industrie qui, à mon sens, n'est pas très en bonne forme.
Le son que vous nous avez apporté, le voici. Ah, c'était compliqué de faire ce son, mais Thomas Beau a réussi à le faire. Qu'est-ce que vous nous avez demandé, Olivier Saillard ?
En fait, heureusement que j'ai changé, parce qu'au début, j'aime bien le dire, j'avais choisi des extraits de Mama Roma. Je me suis dit, mon Dieu, mais ça va nous plomber, c'est un peu pédant, tout ça, vraiment. Alors, il y a une chose que j'adore, que je trouve un petit peu cake, un petit peu cagole, c'est quand le morceau de musique n'est pas assez frimeur. J'adore les morceaux de musique qui jaillissent des bagnoles, fenêtres ouvertes. J'oserais plus le faire, mais vraiment, je trouve ça très réjouissant quand on est dans une bagnole et que quelqu'un ose le faire. Je trouve que ça sent l'été, ça sent la frime, ça sent la drague. Enfin, vraiment, j'ai un peu besoin de me ressentir là-dedans.
Le rendez-vous, la session.
La session, bah, elle n'aura rien de cagole. On
exactement, elle sera plutôt musique ancienne avec
pas de kéké des plages, rien
voilà.
du tout.
Voilà, c'est le quatuor Ruggieri qui est sur scène. Trois hommes, une femme qui se sont rencontrés autour d'un amour commun, celui
non,
de
c'est tout le contraire.
D'époque.
Ou alors vous
je
avez un problème avec
trois
le genre.
Une femme.
Non, il y a trois femmes
vous
et un homme.
Trois femmes et un homme.
Ouais,
ils sont, et ils sont charmants en plus. Donc eux, leur but, d'épucherer les patrimoines de musique de chambre classique et romantique avec leur instrument d'époque pour redonner le son au plus proche de ce qu'il était jadis. Et ils l'ont fait avec George Henslow, compositeur du 19e siècle qu'on appelle Beethoven français, trop injustement oublié aujourd'hui, d'autant plus sur la musique de chambre qui était le cœur de son répertoire. Voici donc le Minuetto Allegro, air de danse des montagnes d'Auvergne, qui est extrait du Quatuor opus 10, numéro 3. Quatuor Ruggieri, c'est à vous. Thank you.
Quatuor Ruggieri avec Guillaume Dubergiac au violon, Charlotte Grattard au violon, Delphine Grimbert à l'alto, Emmanuel Jacques au violoncelle. C'est une session programmée par Lucille Como. Leur album consacré à George Onslow, c'est le deuxième qui lui consacrait Paris au label Agogique.
Le président de la République de France, François Hollande, est très drôle.
C'est un art de l'équilibre. Parfois, c'est plus dur de faire, on le sait, moins que de faire beaucoup plus comme un espèce de porte-drapeau de sa création.
Et à mon avis, c'est une espèce de transfert.
Merci à nos invités, j'adore le mot transfert. Valérie Thoragnon, L'étrangère, apparu aux éditions Flammarion. Olivier Saillat, Yves Saint-Laurent 71, la collection du scandale, c'est à la fondation Père Berger, Yves Saint-Laurent à Paris jusqu'au 19 juillet. L'exposition Jeanne Lanvin, c'est au Palais Galliera, musée de la mode de la ville de Paris jusqu'au 23 août. Les catalogues sont disponibles aux éditions Paris Musée et Flammarion, fondation Pierre Berger. L'album Onslow du Quatuor Ruggieri est disponible sous le label Aparté.
Mais oui, c'est mal, c'est moi qui ai mal dit.
Je suis ça,
mal.
C'était pour aujourd'hui. Mais demain. Demain, une émission clarinette et cinéma avec Michel Portal et Fernando Solanas. La des annonces, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Zoé Sfez, I Say to End Doy, Elsa Béranger, Journal de la Culture, Adrien Nazelli, Chronique Xavier Delaporte, à la prise de son Thibaut Germèze et Clément Berman, et à la réalisation Thomas Beau.
Vous parlez très très vite, j'adore ça. Il est 19h54, vous êtes sur France Culture, là c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la comédie
française.
Alors bonne soirée à tous et à demain.